À bout de souffle, une émission sur la pensée contemporaine. Aujourd'hui, Éric Fassin, sociologue américaniste à l'École normale supérieure.
Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue américaniste à l'École normale supérieure et vous avez publié en 1999 avec Daniel Bourillo et Marcella Yacoub aux Presses universitaires de France, Au-delà du Pax. En 2004, chez 10-18, avec Clarisse Fabre, Liberté, Égalité, Sexualité, au pluriel. J'insiste parce que mon ordinateur refuse le pluriel à sexualité. Et enfin, en 2005, chez les éditions Amsterdam, L'inversion de la question homosexuelle. Et on vous doit également de nombreux articles, notamment dans la revue Vacarme. Alors, les titres des ouvrages successifs laissent entendre une spécialité de votre travail, celle des questions de sexe et de sexualité. En langage universitaire, on dirait les rapports sociaux de sexe, et vous vous revendiquez féministe. Cette revendication de la part d'un sociologue semble être au cœur de votre conception du rôle de l'intellectuel et de la place du savoir dans l'espace public. De ceci, nous y reviendrons, car c'est à Michel Foucault, et de lui, nous en parlerons, que vous empruntez le terme d'intellectuel spécifique pour qualifier votre engagement. De lui aussi, sans doute, que poursuivant son travail, vous ne cessez d'être interrogé par le statut des normes dans les sociétés démocratiques, qu'en retour, vous interrogez. De lui aussi, enfin, que vous participez à la fondation de l'Observatoire du 6 mai, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, un observatoire qui se veut avant tout un groupe d'intellectuels spécifiques capables d'alerter en amont les enjeux ou les dangers d'une orientation politique, mais aussi de donner à voir, et je vous cite, « la politique de la vérité contre une science qui prétend dire le droit, qui tente de restaurer ou de conserver un ordre symbolique qu'elle érige en vérité éternelle ». Aussi, on verra qu'avec l'énième projet de loi sur l'immigration et notamment l'amendement portant sur l'ADN et la filiation, cela concerne directement les questions de liberté sexuelle et les questions raciales. Alors je disais en introduction que vous étiez américaniste, c'est-à-dire que vous réalisez des études comparatives entre les débats américains et les débats français, et particulièrement les effets du spectre américain dans les débats français. Ce mouvement d'aller-retour a permis à la France de découvrir de nombreux chercheurs américains, qu'il s'agisse de John Scott, David Halpering ou Thomas Laker, ou encore Judith Butler, dont vous avez préfacé la traduction française de « Troubles dans le genre ». Ce livre de Judith Butler a été traduit en France en 2005, 10 ans après sa publication américaine. Alors nous essaierons tout au long de cette émission, à travers divers exemples, de comprendre comment et pourquoi ce livre de Judith Butler et votre travail nous oblige à repenser le pouvoir, non pas nécessairement comme répression, soit un pouvoir qui réprime et qui exploite, mais aussi un pouvoir comme production du sujet, un pouvoir qui fait exister en quelque sorte, soit un retour à Michel Foucault. Alors peut-être avant, vous voulez réagir à cette présentation, avant de vous proposer d'écouter un document sonore qui date de 1971.
Bah écoutez, je me reconnais tout à fait dans ce que vous venez de dire. J'y ajouterai peut-être un élément, c'est qu'en fait, même si une partie très importante de mon travail porte sur les questions sexuelles, les questions de genre et de sexualité, comme vous l'avez rappelé, cela s'inscrit dans un cadre un peu plus large qui est celui des questions minoritaires. Et c'est ce qui m'a amené également à travailler sur les questions raciales. C'est parce que dans un cas comme dans l'autre, qu'on parle de questions sexuelles ou de questions raciales, ce qui est en jeu, c'est effectivement de comprendre la norme à partir des questions minoritaires. Donc le point commun entre les questions sexuelles et les questions raciales, c'est que dans les deux cas, ce qui se joue, c'est une naturalisation des normes. Et le travail critique, dans un cas comme dans l'autre, le travail minoritaire, mais aussi le travail du sociologue que je suis, qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la société, eh bien, c'est un travail de dénaturalisation des normes. Donc il y a, au-delà des questions sexuelles, un horizon un peu plus large qui est celui des questions minoritaires.
Alors je vous propose d'écouter un document sonore. Il s'agit d'une archive qui date de 1971 à propos d'un débat sur l'homosexualité diffusé sur les ondes de RTL.
Ici Meunier Grégoire qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Pleyel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant 3 ans, ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit, car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Je crois qu'on m'a dit 3 choses. On m'a dit premièrement que c'est un accident, qu'on ne naît pas comme ça, on ne s'y attendait pas, contrairement à ce qu'on croit, on a dû le devenir, on ne sait pas comment. Les gens qui savent vous diront que c'est par un mauvais rapport avec le monde, représenté souvent par les parents. On m'a dit deuxièmement que tout être humain entre 12 et 14 ans peut se tromper, il passe toujours une phase où il n'a pas encore choisi, où il est un peu perdu, et ça peut arriver à tout le monde. Et la troisième chose qu'on m'a dit, c'est que la notion de culpabilité, qui est très importante dans ce cas-là, vient de la société et que la société culpabilise très différemment les hommes et les femmes. Elle culpabilise les hommes et pas les femmes. Et les lettres que j'ai reçues des homosexuels garçons, jeunes, me disent qu'ils sont malheureux la plupart du temps jusqu'à l'envie de suicide et que cette découverte est un drame. Et c'est pour ça que je veux poser le problème comme il m'a été posé, comme une chose pas drôle, comme une chose finalement importante et qui peut arriver dans toutes les familles, tous les enfants de chacun de nous. Alors, ceux qui ne souffrent pas, bien sûr, ne m'ont pas écrit, mais il y en a qui m'ont écrit en disant qu'ils ne souffraient pas pour faire de la propagande, c'est-à-dire se réhabiliter, et j'en conclus que quand on a besoin de se réhabiliter, c'est qu'on est quand même culpabilisé d'une façon ou d'une autre. Alors, maintenant, je vais donner la parole aux gens qui sont là, je sais déjà ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire. Qui veut la parole? Bon, allez-y.
Je crois que 30% des jeunes qui vont consulter des psychanalystes ou des psychiatres sont soit impuissants, soit se croient homosexuels ou ont commencé l'homosexualité. Et il apparaît très relativement facile et très rapide d'enrayer une homosexualité commençante, c'est-à-dire de rendre l'individu normal. Dès lors qu'au début, ça peut être fait d'une façon très courante, ceci indique que la réversibilité plus tard sera peut-être plus difficile, mais tout aussi possible.
Je crois qu'on peut peut-être donner la parole aux gens de la tribune qui ont à poser des questions dans le sens de la salle. Hein. Alors, vous voulez la parole, Pierre-Anne, journaliste, je vous en prie. Prenez le micro très près.
Oui. Je voudrais d'abord dire une chose qui m'est apparue enfin de plus en plus clairement à mesure que j'étais en rapport avec des spécialistes, c'est-à-dire des ethnologues, sociologues, psychanalystes, prêtres. Bon. C'est que nous vivons d'abord dans une certaine société et dans une certaine civilisation. Bon, cette civilisation, nous savons que c'est la civilisation judéo-chrétienne. Bien, cette société, c'est une société bourgeoise qui s'est fondée à une certaine époque, au XIXe siècle, et nous avons hérité la morale, et particulièrement la morale sexuelle. Bon. Eh bien, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on donne toujours des explications qui sont en quelque sorte comme si l'homosexualité n'était pas prise dans la société, comme si elle venait d'une façon, soit par des rapports, je dirais, avec les parents, mais tout cela, c'est une psychologie qui est détachée du réel.
Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit, enfin, je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle.
Bon, alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale.
L'individu, permettez une seconde.
La seule question.
On n'entend plus rien, Claudia, arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il ne nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas se reproduire. Il nous a donné le moyen de choisir un sexe. les homosexuels semblent souffrir de répression, qui nous disent ce qu'ils en pensent.
À propos de la répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels.
Voilà. Ça, c'est une très belle question. Quand vous dites ça, d'ailleurs, vous avez une prise de position personnelle. Vous semblez croire, comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels. Et je vous suis totalement, car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro.
Bon. Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale, que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis de la femme,
écoutez,
vis-à-vis de
l'homosexualité. Écoutez, les hommes qui sont à l'écoute savent très bien ce que c'est, les femmes aussi. Mais si... Si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe. Vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontraient des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Écoutez, nous n'avons plus que 5 minutes, je vous préviens. Nous n'avons pas abordé de loin tous les problèmes. Voulez-vous donner le micro à la salle ?
Je veux juste très brièvement revenir sur la pression, quelque chose de très concret. En France, actuellement, les jeunes de 18 ans ont le droit à un amour hétérosexuel, alors que quand on n'a pas 21 ans, on n'a pas le droit de coucher avec un homme. C'est tout.
Écoutez, moi je voudrais me dire un mot avant de vous redonner la parole. Je pense que je voudrais qu'on pose cette question que vous posez de très loin. L'homosexualité peut-elle être acceptée comme un modèle par une société? Alors là vraiment, je voudrais tout de même qu'on aille jusque-là. Moi je réponds non, c'est pas un modèle. Je suis toute prête à apporter le respect et la compréhension, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut être un modèle social. Continuons.
Je voudrais dire un mot, mais laissez-moi, parce que si vous me tenez le micro comme ça, oui, mais je le tiens, j'ai l'habitude. Mais quoi.
Bien, écoutez, on n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à M. Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à M. Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question.
Allez-y, continuez, on vous entend.
Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, je suis un peu désolée du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat donne tout de même, réponde, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre?
Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église. Et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi... Moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
Ne parlez plus de votre souffrance. Oui. Ah, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté, liberté.
Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes.
Nous demandons la liberté pour nous.
Voilà ce documentaire sonore. Donc c'est une archive de RTL. Ça date de 1971. Alors vous avez vu, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je souhaiterais qu'on recontextualise et qu'on essaye de penser aujourd'hui ce document. parce qu'il soulève de nombreux commentaires et, alors, faute de temps, je vous en proposerai deux. Je vous propose de commenter le couple répression-expression dans ce documentaire. Nous sommes en 71 et l'on voit apparaître une forme de coming out des homosexuels. Alors, c'est peut-être pas encore formulé de la sorte, même si déjà aux États-Unis ce terme existe sous la formule out the closet, dont l'association Arcadie a beaucoup œuvré, ce qui veut dire hors du placard. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez l'histoire de ce terme, coming out, avec ses évolutions, les débats qu'il a suscités, mais aussi et peut-être surtout comment, avec la pensée de Michel Foucault, vous en venez à récuser la vérité sous-jacente à cette pratique du coming out, sans pour autant la rejeter. Vous dites qu'elle a produit des effets contraires aux attentes espérées, érigeant en définitive un nouveau modèle d'expression de soi articulé autour du couple, cette fois-ci, non plus répression-expression, mais libération-injonction. Mais que par ailleurs, en d'autres circonstances, cette pratique se révèle nécessaire. Éric Passin.
Alors, je crois qu'effectivement, ce qu'on voit dans cette archive, c'est que l'homosexualité est un objet de discours, à la fois des discours psy avec Ménie Grégoire, mais aussi des discours religieux avec l'intervention du prêtre qui vient dire lui aussi la norme. On voit en même temps un renversement de perspective dès lors que des homosexuels prennent la parole, montent à la tribune pour la plus grande inquiétude de Ménie Grégoire. Autrement dit, la question de qui parle est décisive dans cette affaire, c'est-à-dire que, au lieu que l'homosexualité soit simplement un problème, eh bien, c'est un renversement de perspective. Pour ma part, c'est ce que j'ai appelé l'inversion de la question homosexuelle, c'est que, à partir de la question homosexuelle, on va interroger l'ensemble des pouvoirs et des savoirs qui constituent la norme. Donc il y a un renversement de perspective dès lors que, au lieu de considérer que l'homosexualité est le problème dont on parle, l'homosexualité devient le problème à partir duquel on parle, à partir duquel on pose des questions à la psychanalyse, à la religion, au droit, à l'ensemble des savoirs et des pouvoirs constitués. Donc je crois que c'est un moment qui est important historiquement. Cette archive renvoie à quelque chose qui est un peu l'équivalent du Stonewall américain, c'est-à-dire de la première révolte homosexuelle de 1969, qui est l'acte fondateur du mouvement homosexuel aux États-Unis. Donc cette archive sonore de 1971 joue un peu le même rôle dans l'histoire de l'homosexualité en France. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir d'une part que Ménie Grégoire est en quelque sorte prise dans une contradiction. Cette contradiction, c'est que d'un côté, elle est de bonne volonté. Il s'agit de marquer une compassion, de combattre une culpabilité, d'encourager une tolérance. Mais en même temps, elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas exagérer et qu'il y a quand même une norme et que cette norme est bien fondée en nature. L'idée, c'est donc que l'homosexualité est un problème dont il faut rechercher les causes. On est dans une logique étiologique, c'est-à-dire qu'on va chercher les causes et non pas dans une logique qui serait de s'interroger sur pourquoi l'homosexualité est stigmatisée. Donc c'est ce moment de basculement qui est intéressant. Alors on peut se dire, quand on écoute cette émission plus de 35 ans plus tard, on peut se dire qu'au fond tout cela est exotique, que c'est une autre époque. Il y a un côté presque charmant, un peu archaïque dans tout cela. En même temps, je suis très frappé de constater que tout n'a pas changé de manière si radicale. Après tout, l'idée que les prêtres et les psys, mais aussi les anthropologues et les sociologues, pouvaient parler de conserve, c'est ce qu'on a pu voir pendant les débats sur le Pax, puisque le discours des évêques de France était inspiré par un prêtre psychanalyste, Tony Anatrella, qui intervenait dans le débat en faisant le pont entre les arguments des sciences humaines et les arguments religieux. Donc, l'exotisme n'est pas si grand parce qu'au fond, la question est la même, même si bien sûr, il me semble que les rapports de force se sont modifiés à l'occasion des débats sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Mais la question est la même, c'est de savoir est-ce qu'on est face à l'homosexualité et plus généralement face aux sexualités minoritaires dans une logique simplement de tolérance ou bien est-ce qu'on entre dans une logique de reconnaissance. Et on voit que la bonne volonté tolérante de Ménie Grégoire est interpellée au nom d'une logique qui est celle de la reconnaissance. Il y a donc, je crois, une tension entre deux rapports à la norme, parce que forcément, si on tolère quelque chose, c'est que ce quelque chose est un problème. On tolère des problèmes, mais on reconnaît quelque chose qui n'est pas un problème. Et la question est très bien posée, me semble-t-il, même si pour ma part j'y apporterai une réponse différente, mais elle est très bien posée par Ménie Grégoire. Au fond, la question, c'est celle de la norme. Mais il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, ceux et celles qui revendiquent des droits pour les couples de même sexe et pour les familles homoparentales, il ne s'agirait pas de dire qu'ils demandent à instituer l'homosexualité en norme. Ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que la question de la norme est interrogée. Et on se demande au nom de quoi veut-on hiérarchiser les sexualités pour considérer que c'est mieux d'être hétérosexuel que de ne pas l'être. Au nom de quoi voudrait-on dire qu'une famille doit être fondée sur le couple hétérosexuel plutôt que sur toute autre configuration ? Je crois que c'est cela qui est en jeu. Ça n'est pas de remplacer une norme par une autre. Au fond, l'homosexualité prenant la place de l'hétérosexualité, comme semble le craindre Ménie Grégoire, mais c'est bien plutôt de se demander, est-ce qu'il est nécessaire que dans l'organisation de nos normes amoureuses, de nos normes conjugales, de nos normes familiales, on institue, on maintienne l'institution, et que donc on la renouvelle, l'institution de la norme hétérosexuelle. C'est cela, je crois, qui est en jeu. Et de ce point de vue-là, cette archive un peu désuète, qui nous rappelle le bon vieux temps du début des années 70, elle n'est pas si éloignée de nous. Ce sont bien les mêmes questions dont nous débattons aujourd'hui. Alors en même temps, j'ajouterai un élément renvoyant à ce que vous disiez sur qu'est-ce qui se joue dans cette expression homosexuelle à ce moment-là. On voit bien que la ligne de défense occupée par les manifestants et manifestantes parlant au nom de l'homosexualité, c'est l'idée que, au fond, l'homosexualité, c'est naturel. La preuve, Freud l'a bien dit, il y aurait une bisexualité originaire. Et donc, ce que proposerait dans ce cas-là une logique de libération, c'est la libération des mœurs qui va nourrir le discours post-68, eh bien, la libération, elle dirait, libérer notre nature, nous allons affranchir notre nature sexuelle des carcans qu'impose la société. Je crois que cette vision, en revanche, n'est plus aujourd'hui celle qui organise la politique minoritaire, la politique des sexualités minoritaires. Il ne s'agit pas de dire, au fond, qu'il y aurait une nature sexuelle, mais il s'agit de contester précisément le fondement même d'une nature sexuelle. La sexualité n'est pas naturelle. La sexualité est un ordre social. La question est de savoir de quelle manière nous voulons que la société organise la sexualité. Il ne s'agit donc pas simplement de libérer une nature enfin affranchie des normes sociales, mais de penser qu'il y a forcément des normes et que ces normes sont forcément politiques et non pas naturelles. De ce point de vue-là, je crois que le langage de la libération sexuelle qui organisait ce premier mouvement de révolte homosexuelle, il est aujourd'hui un peu dépassé. Au fond, il ne s'agit plus de dire voici ma vraie nature, mais voici mes revendications politiques.
Pendant le Pax, il y avait eu des personnes qui menaçaient des hommes politiques de faire un coming out, c'est-à-dire de dire au public, de dire au monde qu'ils étaient homosexuels. Et Alain Finkielkraut, je crois que c'est dans les années 70 ou dans les années 80, demandait aux homosexuels d'être dans une démarche de discrétion, reprenant finalement Michel Foucault, mais le retournant contre les homosexuels. Et vous expliquez qu'aux États-Unis, ça a été la politique de Bill Clinton vis-à-vis de l'armée. Et l'armée disant, eh bien, très bien, on accepte des homosexuels, mais il ne faut pas que ça ne se voit, soyez discret. Et donc, du coup, l'armée était obsédée de vérifier si ça ne se révélait pas chez l'individu, s'il n'y avait pas un comportement qui allait révéler l'homosexualité. Et donc, ça devenait finalement extrêmement dangereux. Et que donc, le coming out était davantage pour dénoncer, finalement, la fabrication de l'individu, c'est-à-dire l'individu devenait homophobe parce que la société exigeait de lui qu'il singe encore plus fortement l'hétérosexualité.
Alors je pense qu'effectivement, qu'il s'agisse d'injonctions à la discrétion ou au contraire d'injonctions à la publicité, il est important de penser ces questions de manière stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne manière, toujours et partout, de vivre sa sexualité, quelle qu'elle soit. Il y a, au contraire, des manières de penser ces questions par rapport au contexte dans lequel nous sommes, et donc dans des perspectives à la fois contextuelles et stratégiques. Alors, pour être plus précis que cette généralité stratégique, je crois qu'on voit bien que lorsque ACT UP a menacé de « outing », c'est-à-dire de sortir du placard contre son gré un homme politique, il s'agissait non pas de dire « les homosexuels devraient nécessairement être hors du placard », mais plutôt, et c'est en cela que j'avais une certaine sympathie pour cette menace, qui d'ailleurs n'a pas été réalisée, ce qui la rend encore plus sympathique à mes yeux, il me semble que ce qui était intéressant, c'est qu'on disait « au fond, cet homme politique, il manifeste en janvier 1999 à côté de banderoles et de personnes qui crient « les PD au bûcher ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, cette personne, cet homme politique, a trouvé que le meilleur moyen de cacher son homosexualité pour ne pas être exposé au stigmate social qui s'attache à cette orientation sexuelle, cet homme politique, eh bien, trouve que le meilleur moyen de se cacher, c'est d'être parmi les homophobes. Ça n'est pas exceptionnel. On voit aujourd'hui aux États-Unis que beaucoup d'homophobes patentés qui se sont engagés très fortement pour des politiques répressives à l'encontre de l'homosexualité et contre toute reconnaissance des droits des gays et des lesbiennes, beaucoup se révèlent à l'occasion d'un scandale, d'un fait divers, arrêté dans des toilettes publiques ou bien dénoncé par un ancien compagnon, ils s'avèrent être homosexuels eux-mêmes. Donc qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle le fait que l'homophobie peut devenir, l'homophobie proclamée, peut devenir le dernier refuge du placard. Donc ce qu'avait fait ACT UP à l'époque, me semble-t-il, c'était non pas de dire « tout le monde dehors, chacun doit s'afficher », mais plutôt de dire quelles sont les conditions politiques qui amènent certains à choisir comme stratégie de discrétion l'homophobie virulente. Alors ça ne veut pas dire que tous les homophobes seraient au fond homosexuels, mais ça veut dire qu'il y a des conditions pour que certains soient amenés à revendiquer l'homophobie comme, comme un placard nouveau. Donc je crois qu'il faut bien distinguer de ce point de vue-là la question du outing, c'est-à-dire forcer les gens hors du placard, et je crois que l'expérience d'ACT UP était intéressante parce qu'elle menaçait de forcer sans forcer, et elle révélait ainsi une certaine hypocrisie sociale qui fait qu'on s'était indigné, non pas du fait que des gens défilaient en disant les PD au bûcher, mais qu'on menaçait de révéler l'homosexualité d'une personne. Ça montrait une hypocrisie sociale, et donc l'effet de révélateur me paraissait positif. Il y a d'autre part la question du coming out. Le coming out, historiquement, a changé de sens. L'historien américain George Chauncey, qui a écrit un livre important, Gay New York, qui a été traduit en français sous ce même titre, raconte l'histoire de ce terme en montrant comment on est passé de ce qui était une version ancienne, dans les années 20 en particulier, du coming out homosexuel, qui était les homosexuels qui font leur début sur la scène homosexuelle, en particulier avec des balles. Donc c'est en quelque sorte sortir dans le monde, mais dans le monde homosexuel. On voit que depuis les années 50 et 60, on a changé de représentation du coming out. Le coming out, c'est non plus se sortir au grand jour de l'homosexualité, mais se sortir au grand jour de l'hétérosexualité. Faire son coming out, depuis les années 60 en particulier, c'est annoncer publiquement son homosexualité pour un public essentiellement hétérosexuel. Donc c'est franchir cette barrière. Alors, le coming out a une fonction de libération. Il s'agit bien de résister à l'injonction du placard. Il est vrai que dans d'autres cas, cela peut devenir une nouvelle norme. Il peut y avoir une exigence de transparence. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, il faut bien réfléchir à chaque instant, et c'est vrai, quelle que soit notre sexualité, il faut bien réfléchir à la manière dont ces questions sont posées dans l'espace public, pour essayer de déjouer ces attentes normatives. Donc, il ne s'agit pas de dire « il faut s'afficher », ou à l'inverse, il faut être discret, la question est d'essayer de faire en sorte, premièrement, que ce choix appartienne aux personnes, et deuxièmement, qu'on essaie de faire bouger ces injonctions, de les ébranler. C'est là, me semble-t-il, qu'il y aurait une très grande différence avec, entre ma position et celle d'Alain Finkielkraut, ce qui ne vous surprendra peut-être pas tout à fait, mais c'est qu'Alain Finkielkraut, lui, exige la discrétion. Le problème n'est pas de savoir si les homosexuels doivent ceci ou doivent cela. La question, c'est de savoir qu'est-ce que la société contraint, qu'est-ce que les normes imposent et comment peut-on déjouer ces injonctions normatives de la société.
Alors justement, on va continuer sur la question des normes parce que sur le plateau, il y a donc un psychanalyste et un prêtre. Michel Foucault disait que la psychanalyse extorquait l'aveu comme l'inquisition ou la religion avec objectif de faire avouer par et dans le sexe la vérité du sujet. Et donc, après le vote du Pax, le philosophe Didier Ribon disait ceci. La psychanalyse peut-elle encore servir? A-t-elle encore quelque chose à dire? Peut-on réformer la psychanalyse? Et pourquoi ne faudrait-il pas jeter toute la psychanalyse en tant que telle? Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi une telle charge du philosophe Héribon, d'autant plus que vous continuez et vous dites ceci, poursuivant les interrogations de Didier Héribon, vous avez rédigé un plaidoyer pour une historicité de la psychanalyse, si celle-ci ne veut pas être vouée aux poubelles de l'histoire. C'est une historicité à laquelle déjà Michel Foucault avait appelé et auquel la psychanalyse semble résister. Alors, ce qui nous amène à la question du rôle de l'expertise, en définitive, dans le débat public. Et vous proposez une analyse sociologique des politiques de l'expertise en posant la question suivante, qui est quand même une question importante. Les sciences sociales doivent-elles renoncer à définir?
Alors, je crois qu'effectivement, votre conclusion le rappelle. Mon argument ne porte pas spécifiquement sur la psychanalyse, mais sur l'ensemble des savoirs. Il ne s'agit donc pas, pour moi, en tant que sociologue, de dénoncer les psychanalystes, mais plutôt de réfléchir aux positions de pouvoir qu'occupent les savoirs dans notre société, y compris la psychanalyse, mais aussi, y compris, la sociologie ou l'anthropologie, discipline dont je me réclame également. Il ne s'agit donc pas d'opposer de bons savoirs démocratiques, qui seraient ceux de la sociologie et de l'anthropologie, à des savoirs dévoyés démocratiquement, qui seraient la psychanalyse. Je crois que les questions qui sont posées sur le statut politique des savoirs, elles sont générales. Alors effectivement, j'ai contribué avec d'autres à une critique de l'expertise, ou plutôt à une critique des abus de l'expertise. Il ne s'agit pas de critiquer l'expertise pour elle-même, parce qu'après tout, l'idée que les savoirs puissent être utilisés à des fins politiques ne me pose pas de problème. J'interviens moi-même, tout en étant sociologue, dans des contextes politiques. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre les deux. En revanche, il y a abus, me semble-t-il, lorsqu'on essaie de convaincre que les choix de société sont tranché par la science. Lorsqu'on essaie de faire passer des choix qui sont des choix de valeur politique pour des contraintes fondées sur des vérités anthropologiques ou psychanalytiques ou sociologiques. Autrement dit, il me semble qu'il est très important de distinguer un ordre politique d'un ordre savant, même si, bien entendu, il y a des échanges entre les deux. La différence, c'est que les vérités de la science, elles n'ont pas vocation à dicter leur conduite à nos sociétés, à nos législateurs, etc. Donc l'abus de l'expertise, c'est quand la science prétend trancher des débats qui sont en fait des débats sur des valeurs politiques. Alors pour ma part, je crois qu'effectivement il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire pour les savoirs. On peut considérer, comme le fait Didier Héribon, que la psychanalyse est définitivement compromise avec une représentation hétérosexiste, pour ne pas dire homophobe, de la société. Ça n'est pas mon avis, non pas que j'ai compétence particulière dans ce domaine, mais je crois qu'il en va de la psychanalyse comme de l'anthropologie, comme de la sociologie. On pourrait dire qu'après tout, la sociologie de la famille est définitivement compromise avec une représentation hétérosexiste et homophobe de la famille. on pourrait dire que l'anthropologie de la parenté est définitivement compromise par une vision hétérosexiste et homophobe de la parenté. Or, je crois qu'il n'y a rien de définitif là-dedans. Il n'y a pas d'anthropologie éternelle, il n'y a pas de sociologie éternelle et il n'y a pas de psychanalyse éternelle. Les savoirs sont toujours historiques. Autrement dit, ils sont constitués à des moments donnés, mais ils sont aussi renouvelés selon les contextes historiques. Donc il me semble que ce qui est intéressant dans ce qui vient de se passer depuis une bonne dizaine d'années autour des revendications d'ouverture du mariage et de la famille aux couples de même sexe, ce qui est intéressant, c'est que on est amené à réfléchir non pas seulement sur ce qui se passe dans la société, mais sur ce qui se passe aussi dans les savoirs. On est amené à se poser des questions et au lieu de considérer que ces interpellations sociales, cette inversion de la question homosexuelle, au lieu de considérer que c'est au fond la fin des savoirs, il me semble qu'il est plus intéressant de penser comment cela renouvelle les savoirs, comment cela appelle à se poser des questions. Les savoirs n'ont pas vocation à proposer des réponses définitives, mais à constamment s'interroger. Ce qui définit le savoir, qu'il s'agisse de la sociologie ou de l'anthropologie, discipline donc dans lesquelles je m'inscris, mais de l'ensemble des savoirs, me semble-t-il, c'est la recherche. La recherche, ça n'est pas d'avoir posé une fois pour toutes la vérité, c'est de constamment essayer d'interroger non seulement le monde, mais aussi les prémices à partir desquelles nous interrogeons le monde. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a quelque chose de salutaire pour les savoirs. Bien sûr, ils sont bousculés par l'actualité politique, mais être bousculé me paraît propice au travail scientifique. Ça n'est pas la fin du savoir, c'est au contraire un renouvellement du savoir. Donc pour ma part, je considère qu'il serait trompeur d'imaginer que, puisque dans le passé, la psychanalyse, comme d'autres savoirs, s'est constituée à partir d'une représentation hétérosexiste, c'est-à-dire fondée sur la norme hétérosexuelle, posée comme une évidence quasi naturelle, eh bien qu'elle ne peut pas changer. Au contraire, moi je suis plus intéressé par le fait que des psychanalystes se posent des questions. Je travaille par exemple, et nous faisons ensemble un séminaire avec Michel Thor. Michel Thor qui est psychanalyste et qui a écrit un ouvrage au titre, me semble-t-il, significatif, « La fin du dogme paternel ». Il s'agit à la fois de remettre en cause la figure du père avec une majuscule, mais aussi de s'interroger sur le fonctionnement par dogme. C'est-à-dire que les savoirs fonctionnent parfois lorsqu'ils se routinisent et lorsqu'ils s'institutionnalisent de manière dogmatique. C'est cela, je crois, que l'actualité nous oblige à remettre en cause, à interroger, à critiquer. Et en ce sens-là, de même que les normes dans la société ne sont pas éternelles, de même, les normes dans les savoirs sur la société ne sont pas éternelles, ils sont traversés par l'histoire. Et c'est donc le sens que je donne à cette historicité des savoirs.
Alors, Eric Bassin, je vous propose d'écouter un nouveau document sonore qui nous permettra de poursuivre cette conversation.
Quand est-ce que je commence ?
C'est à l'heure où s'allument les lumières de la ville que commence la ronde sans espoir des filles de la rue.
Mais qu'est-ce que je dois faire exactement?
La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation.
Est-ce que c'est important d'être belle?
La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes, l'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits.
Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part?
C'était le cas avant la loi du 13 avril 1946. Les prostituées étaient soumises à une surveillance policière et médicale. Désormais, la prostituée n'est plus contrainte qu'à une seule obligation, celle de se soumettre à un contrôle médical. La loi du 24 avril 1946 et le décret numéro 2253 du 5 novembre 1947 instituèrent et organisèrent le fichier national sanitaire où doivent être enregistrées toutes les femmes à l'encontre desquelles il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure qu'elles se livrent à la prostitution.
Et comment est-ce que je dois faire?
Quel que soit le quartier où la femme opère, les procédés de racolage sont les mêmes. La femme, par sa toilette, son allure, son maquillage, manifeste clairement les motifs de sa présence sur le trottoir. Parfois, malgré l'interdiction de la loi, elle approche le client, lui fait des signes, ou même l'interpelle et lui fait des offres.
À quel tarif je serai?
Les tarifs présentent un éventail très large, allant de 300 francs jusqu'à 10 et 15 000 francs pour une rencontre qui peut durer de quelques minutes à une heure selon le cas, et que l'on désigne sous le nom de passe, et de 5 000 à 50 000 francs pour une nuit, ce que l'on appelle un coucher.
Est-ce que j'ai le droit d'aller n'importe où ?
Des essais de réglementation ont été tentés dans ce sens, à Paris notamment, où un arrêt du préfet de police du 25 août 1958 a interdit de stationner d'une manière prolongée ou d'effectuer des allées et venues répétées en vue de se livrer à la prostitution pendant certaines heures, au bois de Boulogne, dans les avenues avoisinantes, ainsi que dans le quartier des Champs-Élysées.
Je touche un pourcentage ?
La femme est taxée à temps par jour, c'est-à-dire qu'elle doit verser une somme journalière fixée à l'avance. Dans le quartier des Champs-Élysées ou de la Madeleine, la taxe est de 20 000 à 30 000 francs par jour. La remise d'argent a lieu en fin de semaine.
Est-ce que j'ai une chambre à moi ?
Les draps le plus souvent ne sont même pas changés entre deux locations, mais seulement le linge de toilette. Dans certains hôtels, les lits ne comportent pas de couverture, mais seulement le drap de dessous.
Et la police ?
La police opère par rafle, interpellation, examen de situation. Les prostituées qui ne sont pas en règle sont dirigées vers des dispensaires ou des hôpitaux où elles peuvent être consignées le temps que durent les examens médicaux très complets avec prélèvements et analyses.
J'ai le droit de prendre un verre au café ?
La prostituée qui a un goût exagéré pour la boisson n'a qu'un faible rendement. On la considère comme indésirable car elle provoque du scandale.
Et si je suis enceinte ?
On serait tenté de croire qu'une prostituée se voyant enceinte va chercher à tout prix à se faire avorter. Ce n'est pas exact. Il est évident d'autre part qu'elle cherche à éviter la grossesse. Elle se drogue ou pratique des manœuvres lorsqu'il lui apparaît que celle-ci est possible. Mais lorsqu'elle se sait enceinte de façon certaine, il est rare qu'elle se fasse avorter.
Mais il faut accepter tout le monde ?
Être à la disposition de la clientèle comporte une conséquence à laquelle la prostituée, quelle qu'elle soit, ne peut se soustraire. Elle doit accepter n'importe quel client pourvu qu'il paie. Celui-là. 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 Celui-là.
Il y a des clients tous les jours ?
Le nombre journalier moyen de clients des prostituées des catégories inférieures s'établit entre 5 et 8 selon les quartiers. La recette moyenne se situe entre 4 000 et 8 000 francs par jour. Mais il faut noter que certaines de ces femmes arrivent à des rendements extraordinaires. On en a vu dépassant le chiffre de 60 clients les samedis ou veilles de fête.
Donc là, on va regarder mon annonce à moi. Je vais te montrer. Donc là, comme c'est mondial, tu y vas sur France et tu me trouves moi. Alors, où est-ce que je suis ? Ah non, là, c'est pas. Donc tu vois, là, il y a plein de mecs avec leurs photos, tout ça, une petite présentation. Mais c'est comme des sites de rencontres classiques, sauf que là, en même temps, t'as les prix et voilà, et les gens ils t'appellent et voilà. En fait, c'est pas compliqué, hein. Moi je suis là, salut à tous, je suis ouvert à tout du moment que c'est safe, donc je m'appelle Thierry, j'ai 22 ans, j'aime tout dans le sexe, oui donc vraiment c'est safe, je suis étudiant, appelez-moi, à bientôt, bise, et 200 euros, donc c'est le tarif, et puis donc il y a différentes photos, bah tu me vois moi à poil, voilà, en érection, et puis il y a plein de photos de moi, là tu cliques dessus pour agrandir si tu veux et tout. On est encore dans plein de trucs tabous sur la sexualité et le travail sexuel, ça fait encore partie des choses tabous dans la sexualité. Peut-être parce qu'il y a l'argent aussi qui rentre en jeu et que l'argent et le sexe mélangés, c'est deux trucs tabous. Pourquoi c'est si compliqué que ça à comprendre que je puisse prendre du plaisir à faire ce métier ? Je m'appelle Thierry, j'ai 22 ans. Je suis étudiant, je milite aussi à ACT UP, qui est une association de lutte contre le sida. Enfin, escorte, c'est vrai que c'est le terme un peu classe, on va dire. Mais je me définis autant comme pute, comme tapin, comme tout. Et je m'assume tellement en tant que PD déjà à la base que pour moi, pute était juste un stigmate de plus à porter. Soit d'un côté, t'es une victime et on te laisse pas la parole et donc on va te dire pour toi ce qui est bien pour toi parce que t'es qu'une victime et que t'es pas capable de revendiquer quoi que ce soit, ou de l'autre côté t'es forcément une coupable et donc si on t'agresse, bah non c'est pas vrai, c'est que tu l'as bien cherché parce que t'es qu'une pute. Bah moi, il me semble que c'est beaucoup plus facile d'utiliser partie génitale que d'aller se crever à la tâche dans une usine où tu travailles 35 heures par semaine. Et voilà, moi, je fais pas 35 heures par semaine, tu vois. Je fais 3-4 passes dans la semaine et ça me va très bien, tu vois. 200 euros, ça va, quoi. Et je suis pas sûr que ça se trouve, je gagne encore plus que ces gens-là. Enfin, tu vois, mais c'est pas... C'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent en disant « D'abord, je tombe amoureux et après, je baise. » Sauf que moi, j'ai besoin de baiser d'abord pour tomber amoureux. On définit l'amour d'une certaine façon, avec plein de normes, avec plein de codes, pareil, parce que c'est une société hétéro, religieuse et tout, qui fait que, bah voilà, on a le couple, une certaine façon de sacraliser ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est le sentiment, chacun éprouve des sentiments différemment de... je peux pas dire si mes sentiments ils sont comparables à ceux de la plupart des gens et si on peut le définir comme amour ou pas. Et j'ai pas besoin de définir mes sentiments d'une certaine façon ou pas. Je les vis, c'est tout.
Voilà, donc je vous proposais d'entendre ces documentaires sonores. Alors le premier, il date de 1962. C'est un extrait de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Et le deuxième extrait sonore, c'est une petite production d'Arte Radio. Et c'est le portrait de Thierry, 22 ans, PD et fier de l'être. Donc, pourquoi ces deux documentaires sonores ? Eh bien, c'est pour aborder la question de l'éthique du désir soulevée par Judith Butler dans un entretien que vous avez eu avec elle pour la revue Vacarme. Je recontextualise un petit peu ce qu'elle disait. Elle parlait de la féministe américaine Catherine McKinnon, pour qui la pornographie ne relève pas seulement de l'expression, c'est aussi une action. Elle est un acte discriminatoire et non pas un simple discours. Elle estime que les images pornographiques, donc Catherine McKinnon, agissent directement sur les gens qui les consomment, qu'elles affectent leur construction de genre de manière à produire et à reproduire domination et soumission. Ainsi, l'homme serait défini par sa position dominante dans la sexualité et la femme, elle, par sa position dominée, de sorte que ce serait la domination qui produirait le genre. Ce qui est important, c'est que du fait de leur abaissement, les femmes alors seraient privées de la capacité de consentir. Pour Judith Butler, dans cet article, elle reproche que non seulement ceci n'est pas confirmé par les enquêtes de terrain, mais que c'est une manière de réguler l'univers des fantasmes. Et Judith Butler de rappeler que dans le même temps, le mouvement gay et lesbien cherchait à récuser l'idée que les femmes veulent une sexualité innocente de tout rapport de pouvoir, explorant donc une pornographie ou un érotisme féministe. Elle rappelait également que pour Michel Foucault, le pouvoir et la sexualité sont coextensifs et qu'il n'y a pas de sexualité sans pouvoir. La question est comment de sortir de cette opposition entre un féminisme de la domination qui fait une confusion entre genre et sexe et un féministe pro-sexe qui développe une autonomie de la sexualité par rapport au genre. Et c'est la question que pose en définitive Judith Butler dans ce livre « Troubles dans le genre ». Ces deux documents donc, que nous venons d'entendre posent deux questions qui obligent en tout cas à sortir de cette opposition que nous venons de voir. Premièrement, c'est la question du travail sexuel, c'est-à-dire tout ce qui encadre ce travail et donc l'ensemble des conditions de travail qui se posent aussi bien pour les femmes et les hommes qui participent à l'industrie pornographique que pour les hommes et les femmes qui se prostituent. C'est les problèmes urgents car sur ces problèmes, il semble que nous préférons l'hypocrisie en expulsant les prostituées en périphérie, sur les bords de route ou en se contentant de flouter ou crypter des images pornographiques. Et il faudra bien répondre à la deuxième question que pose Thierry dans le documentaire sonore qu'on a entendu, c'est-à-dire pourquoi l'échange sexuel paraît bien plus problématique que d'autres formes d'échange économique alors que lorsqu'on travaille, eh bien, notre corps est soumis à des contraintes horaires, à des contraintes propres aux conditions de travail. Donc il me semble que Judith Butler trouve des réponses du côté de la représentation que le sont fait finalement du désir et que c'est dans la représentation que le sauver des désirs, qu'il aurait les réponses. J'aimerais que vous apportiez des précisions.
Alors, je pense que les deux archives sont très intéressantes à entendre côte à côte, en particulier parce qu'on voit bien que dans un cas, la femme parle, mais seulement pour poser des questions, pour savoir comment ça marche, tandis que dans l'autre cas, avec Thierry qu'on entendait, on voit bien que l'homme qui se prostitue est sujet de sa propre histoire. On voit à travers cela une divergence à la fois dans la réalité, mais aussi dans les mobilisations politiques. Le féminisme a été davantage sensible au fait que les prostituées n'avaient pas la parole. C'est le premier extrait qu'on a entendu, et donc en pensant aux prostituées femmes, tandis que le mouvement gay a été davantage sensible au fait que, après tout, on pouvait choisir de vendre sa sexualité ou de la louer, comme le fait Thierry, en considérant que, après tout, c'est un marché comme un autre. Ça renvoie aussi à une tension dans l'histoire du féminisme que vous rappeliez, entre une version de la pornographie, mais aussi de la sexualité proposée par Catherine MacKinnon, la juriste féministe américaine, qui dit, au fond, nous vivons dans un monde où les conditions d'exercice, de pratique, de représentation de la sexualité sont telles que ce sont des rapports inégaux. C'est bien de cela que nous parle le genre, c'est de domination des hommes sur les femmes, de domination masculine, de domination sexuelle. Et donc, il n'y a pas véritablement de possibilité de penser un désir libre de ces rapports de pouvoir. La conséquence, c'est que pour Catherine MacKinnon, au fond, les représentations du désir, eh bien, elle nous constitue en tant que sujet de part en part, et qu'au fond, la pornographie serait un instrument d'inculcation de la domination masculine. Une des manières pour un mouvement pro-sexe, dont on a vu par exemple une version française avec l'association Femmes Publiques lors des débats sur la prostitution, donc une version pro-sexe du féminisme s'opposant à Catherine MacKinnon, insistera sur le fait qu'il ne faut pas confondre les représentations et la réalité, et ce n'est pas la pornographie, même si effectivement elle est d'ordinaire sexiste et hétérosexiste, ça n'est pas la pornographie qui nous dicte nos manières de vivre, et il ne faudrait pas réduire les femmes, mais les hommes également, à de simples instruments dans ce jeu des représentations sexistes et hétérosexistes. Pour ma part, je crois que cette tension, elle est constitutive de la réflexion autour de ces sujets et qu'on n'y échappe jamais tout à fait, puisque il me semble qu'il serait également simpliste de considérer qu'il y a un effet mécanique des représentations sur les manières dont nous construisons nos identités, nos pratiques, mais qu'il serait également simpliste de considérer que ça n'a aucun rapport. Après tout, la sociologie de la sexualité nous a amené à penser des scripts, c'est-à-dire des scénarios qui organisent notre sexualité, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, comment on le fait. Je crois que donc penser qu'il y a des scripts sexuels qui ont pu évoluer dans le temps, on ne fait pas les mêmes choses aujourd'hui qu'on faisait hier et on ne fera pas demain les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui. Il y a donc une histoire de ces scripts. Mais dans ces scripts sexuels, une des composantes, ce qui contribue à nos représentations de la sexualité, c'est bien sûr la pornographie. Il y a des scripts pornographiques. On sait que les pratiques ont pu évoluer en partie sous l'influence de ces scripts pornographiques. Donc je crois qu'on ne peut pas trancher d'une manière simple qui nous dirait soit il y a une détermination mécanique, soit il n'y a aucun rapport. On voit bien que c'est un jeu complexe. C'est au fond, plus généralement, le jeu des normes. On sait bien qu'il y a des normes qui s'imposent à nous. Ça ne veut pas dire pour autant que nous les subissions. C'est justement en cela que je suis, comme beaucoup d'autres, lecteur de Judith Butler, et que Judith Butler est lectrice, comme moi-même et comme beaucoup d'autres, de Michel Foucault. La question des normes, ça n'est pas simplement celle d'un ordre normatif qui s'imposerait à nous comme un poids sur nos épaules et qui nous empêcherait d'être les individus que nous aurions vocation à être. Il s'agit au contraire de penser l'assujettissement, c'est-à-dire nous sommes constitués en tant que sujet à la fois dépendant mais aussi sujet subjectivé. Donc ce double sens de l'assujettissement, constitution en tant que sujet, subjectivation et assujettissement au sens d'être mis à une place, d'être assigné à une place dans un ordre normatif. Ce double sens, il me semble qu'il joue pour réfléchir sur les normes en général, mais en particulier sur les questions de pornographie et sur les questions de représentation de la sexualité. Donc je crois que les débats, par exemple, qui ont pu avoir lieu en France au moment de la loi de sécurité intérieure en 2002, organisant la répression contre la prostitution. Et en particulier avec la création ou la restauration de la catégorie de racolage passif. La loi de sécurité intérieure donc participait d'une répression contre les prostituées. En même temps, il y avait un débat féministe avec certaines abolitionnistes qui insistaient sur le fait qu'au fond, les femmes prostituées sont des esclaves, tandis que d'autres insistaient sur le fait que ces femmes, eh bien, elles sont libres, libres de se prostituer. C'était par exemple le point de vue de Marcela Yacoub. Il me semble que dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu simple. Au fond, les acteurs sociaux ne sont jamais esclaves ni libres, ils sont assujettis. C'est-à-dire que, comme le dit Judith Butler, au fond, ils sont toujours dans cette position d'improvisation sur une scène de contraintes. Évidemment, les contraintes, elles peuvent être plus ou moins lourdes, et donc la marge d'improvisation, elle peut être plus ou moins étroite. Mais je crois qu'on a intérêt à toujours penser les deux en même temps. Alors j'ajouterai encore un élément sur la question économique. Comme le dit dans cet entretien Thierry, il y a une difficulté à penser les rapports entre la sexualité et l'argent, et plus généralement donc les rapports économiques. De même d'ailleurs qu'il y a une difficulté à penser les rapports entre la sexualité et les rapports de pouvoir. Au fond, nous avons tous un peu le fantasme d'une sexualité qui serait affranchie des rapports économiques et des rapports de pouvoir, autrement dit l'amour pur. C'est le post-scriptum dans le livre « La domination masculine » de Pierre Bourdieu, consacré à l'amour comme une sorte d'île enchantée qui échapperait à la fois aux rapports de pouvoir et aux rapports économiques. Je crois que ce fantasme, nous l'avons tous un peu. En même temps, il ne suffit pas de se dire « après tout, l'argent, ça compte aussi dans l'amour ». Je crois qu'il y a là-dessus deux versions. L'une, qui est celle préconisée par Thierry, me semble-t-il, c'est « oui, sexualité et argent, ça peut se mélanger, et c'est très bien ainsi ». Il y a une autre version, qui était la version féministe mise en place par des femmes qui ont travaillé sur la prostitution, sans remonter même jusqu'aux féministes du début du XXe siècle, mais dans la période plus récente, avec Gail Faetherson ou avec Paola Tabet, qui ont réfléchi à ce qui pourrait être un continuum entre les rapports sexuels et amoureux de prostitution et les rapports sexuels et amoureux dans le mariage. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait un continuum, et au lieu d'opposer la putain à la femme mariée, il s'agirait de montrer que les unes et les autres sont prises dans des rapports économiques qui sont aussi des rapports de pouvoir. Mais on voit bien que là, le sens de ce rapprochement n'est pas fait nécessairement pour célébrer cette présence de l'argent et du pouvoir, c'est bien plutôt pour généraliser l'inquiétude. Donc je crois qu'il y a deux visions. Est-ce qu'effectivement, on est en train de penser que les rapports de pouvoir et les rapports d'argent sont là et c'est très bien, ou est-ce qu'on veut dire que les rapports de pouvoir et les rapports d'argent sont là et que c'est toujours mauvais? Alors pour ma part, je crois que là aussi, je récuserais cette alternative en disant que ça n'est ni bien ni pas bien, puisque au fond, il s'agit de penser, étant donné qu'effectivement, inévitablement, il y a des rapports de pouvoir, inévitablement, il y a des rapports économiques. Il ne s'agit donc pas de s'affranchir de tout cela. Il s'agit de penser quelle est la manière pour chacune, pour chacun, de maximiser son autonomie, de maximiser donc sa possibilité d'exister en tant que sujet sans être réduit à une place non choisie. Donc comment maximiser cette autonomie, comment maximiser cette manière d'être en tant que sujet. On ne pourra pas s'affranchir du pouvoir, c'était déjà la leçon de Michel Foucault. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Il nous constitue. Il est inséparablement bon et mauvais. La question, c'est de faire en sorte que chaque acteur social, et en l'occurrence, ici, il est important de dire aussi chaque actrice sociale, eh bien, puisse, au lieu de subir simplement ses rapports de pouvoir, maximiser son autonomie, exister davantage en tant que sujet. Sans, bien sûr, imaginer un monde idéal où nous serions libres, affranchis des rapports de pouvoir, et émancipé par rapport aux relations économiques.
Alors, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on aborde la question du genre et de l'identité. Et par rapport au livre de Troubles d'un genre de Judith Butler, alors je pense que c'est en empruntant à Derrida le concept de différence, on va dire, à Deleuze, la multiplicité, et à Foucault, la stylisation de l'existence, que Judith Butler, dans son livre Troubles dans le genre, articule genre, sexe, désir, identité. Avec ce livre, elle remet en cause la catégorie femme comme sujet stable du féministe, argumentant sur le fait qu'il est d'une part discursivement constitué, en somme un peu comme l'identité femme est autant confuse que l'identité nationale, et d'autre part, si le genre admet une interprétation plurielle du sexe, alors l'unité du sujet peut être contestée. Dans ce cas, le genre désigne ce qui produit et institue le sexe lui-même. Le genre se révèle performatif. J'aimerais que vous reveniez sur ce travail de Judith Butler à partir de l'analyse que vous faites sur l'argumentaire qui a motivé le refus de la justice française d'accorder le droit de mariage à une transsexuelle et une transgenre. Comment, en fait, en définitive, je crois, c'est ce que j'en ai tiré, la justice française finalement vient de confirmer les thèses et le travail de Judith Butler.
Alors effectivement, il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que c'est une bonne idée de le faire à partir d'un exemple français, puisqu'il ne s'agit pas de revenir là en deux minutes sur les résistances à la réception de Judith Butler d'abord, et puis aujourd'hui l'engouement autour de l'œuvre de Judith Butler en France. On traduit 15 ans après la première publication Troubles dans le genre, et on voit que ces résistances semblent disparaître, et je crois qu'il y a là quelque chose à comprendre sur précisément quelque chose qui est de l'ordre du trouble dans le genre dans notre société aujourd'hui, une incertitude sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est que l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité. Il me semble qu'au lieu d'être dans le royaume de l'évidence, nous sommes plutôt entrés dans l'empire du trouble. Donc, en laissant de côté ces généralités, je reviendrai sur l'exemple que vous évoquez et qui m'avait beaucoup intéressé de la demande de mariage par deux femmes trans. Devant le maire, elles ont souhaité s'unir. Pourquoi ? Parce que on était après les débats sur le mariage de Bègle, unissant deux hommes et récusés par toute la classe politique et bientôt par la justice. Et on avait réaffirmé donc, contre cette volonté de deux hommes de se marier, que le mariage, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. Or là, il s'agissait de deux femmes, on aurait donc pu dire que, évidemment, elles ne pouvaient pas se marier. Sauf que il s'agissait de deux femmes de leur point de vue, les deux se considéraient comme femmes, mais pas du point de vue de l'État, puisque l'une était effectivement une femme pour l'État, elle avait changé de sexe, elle était transsexuelle, donc elle avait bénéficié d'une opération et d'un changement d'état civil, tandis que l'autre n'avait pas souhaité changer de sexe aux yeux de l'État, elle n'avait pas souhaité être opérée, autrement dit, pour l'État, elle restait un homme. Donc du point de vue de l'état civil, les deux femmes qui se présentaient devant le maire étaient en réalité une femme et un homme, une transsexuelle et un transgenre du point de vue de l'État. On voit bien ici que si on se fie à la loi qui venait d'être rappelée, les choses sont claires, il y a bien différence des sexes aux yeux même de l'État. En réalité, comme on pouvait s'y attendre, la municipalité d'abord, le tribunal ensuite, vont tout faire pour empêcher ce mariage et vont l'interdire. Mais évidemment, c'est très difficile à justifier puisque l'État continue de considérer l'une comme une femme et l'autre comme un homme. Et c'est là qu'on voit les arguments auxquels sont condamnés à recourir ceux qui veulent s'opposer à ce mariage trans. C'est qu'on va dire, oui, mais pour se marier, il faut se comporter comme mari et femme. Se comporter comme mari et femme, ça veut donc dire qu'il ne suffit pas d'être homme et femme, qu'il faut avoir l'intention de se comporter comme tel. On voit bien que donc la catégorie de sexe étant révélée non pas comme une catégorie naturelle, mais comme une catégorie instituée par l'État, c'est l'État civil qui nous dit qui est homme et qui est femme. La preuve, l'État peut dans certains cas changer. Faire basculer d'une catégorie dans une autre. Donc, c'est l'État qui institue le sexe et non pas la nature. Donc, pour fonder le refus de ce trouble dans l'État civil et dans l'État, eh bien, les juristes vont plaider en disant il faut se comporter comme un homme et comme une femme. Autrement dit, la catégorie déterminante, ça n'est plus seulement le sexe, mais c'est le genre. se comporter comme tel. Alors évidemment, ça pose des tas de problèmes, puisque il n'est pas précisé de savoir si cette règle s'appliquerait à tout le monde et s'il faut vérifier que les hommes se comportent bien comme des hommes et les femmes comme des femmes, ou s'il suffit que l'un des deux se comporte comme un homme et l'autre comme une femme, et que donc on pourrait imaginer qu'une femme réputée virile pourrait se marier avec un homme perçu comme féminin. On pourrait dire, bon, bah, la différence des sexes est respectée, du moins dans le genre. Donc on imagine l'absurdité à laquelle cette décision conduit, et c'est cela que je voulais souligner, cette absurdité, il me semble qu'elle est révélatrice. On voit que instituer la différence des sexes comme un ordre naturel devient très problématique dans ce cas, puisque le sexe n'est plus une catégorie naturelle, et que donc on est obligé de naturaliser le genre. Il me semble que c'est tout cela qui est en jeu aujourd'hui, c'est la naturalité de notre ordre sexuel, de l'ordre des sexes et de l'ordre des sexualités. Je crois que de ce point de vue-là, l'œuvre de Judith Butler, si elle a une résonance toute particulière dans notre société aujourd'hui, indépendamment du fait que les uns et les autres s'en serviront de manière différente, ce qui est bien naturel, si je puis dire, si cette œuvre est importante, si elle résonne avec notre actualité, c'est parce qu'il y a dans notre société, dans notre ordre social, dans notre ordre politique, une incertitude, un doute, un trouble, non pas seulement sur le genre, mais aussi sur le sexe, mais aussi sur la sexualité, c'est-à-dire sur l'ordre sexuel dans son ensemble. Au lieu d'avoir des évidences quasi naturelles, eh bien, on s'aperçoit que cet ordre sexuel, il est socialement institué. Ce sont des normes qui sont susceptibles d'être contestées, d'être remises en cause, d'être renégociées. Autrement dit, c'est un ordre politique. Les normes ne sont pas naturelles, elles sont sociales, et donc elles sont historiques, et donc elles sont politiques.
Éric Fassin, je vous remercie.
Merci à vous.
On était sur l'émission À bout de souffle. Je rappelle que vous êtes sociologue, américaniste à l'École normale supérieure, et que vous avez publié en 2005 chez Amsterdam l'inversion de la question homosexuelle. Merci.
Merci.